et Gwen tissa de la terre, puis détruisit les rochers derrière lesquels se cachaient les Aïades. Les autres sœurs l'imitèrent, bombardant la zone de flux. Leurs cibles moururent sous ce déluge de feu et d'éclairs. Le versant était tellement jonché de débris et constellé de trous qu'on eût dit les ruines d'une ville après un terrible tremblement de terre. Il faisait encore nuit et les sœurs se battaient. Combien de temps s'était écoulé depuis la mort de Gawain? Des heures et des heures. Et Gwen canalisa de plus belle, refusant que le souvenir de son deuil la paralyse. Au fil des heures, ses Aes Sedai et les Aïades s'étaient étripés sur tout le versant occidental du plateau. À un moment, la tour blanche avait semblé sur le point de gagner, mais depuis peu, des sœurs toujours plus nombreuses s'écroulaient, mortes de fatigue ou peut-être même carbonisées. Un nouveau groupe d'Aïades approchait déjà, et Gwen les sentant canaliser bien avant de les voir.
« Déviez leur tissage »
cria-t-elle.
« À moi l'attaque et à vous la défense !»
D'autres sœurs répercutèrent cet ordre le long du front. Désormais, elles ne se battaient plus par petits groupes, mais flanquaient leurs chers d'Amyrline, leurs visages sans âge concentrés comme jamais. Incapables de les protéger autrement, les champions leur faisaient un bouclier de leur corps. Et Gwen sentit que Leilwyn approchait dans son dos. Depuis sa nomination, elle prenait son devoir très au sérieux. Lors de l'ultime bataille, une Séan Shanienne, championne des Gwen? Et pourquoi pas? Autour des sœurs, le monde se désagrégeait. Pour en avoir la preuve, il suffisait de regarder les fissures au pied des Gwen. Désormais, l'obscurité sur laquelle elles donnaient ne se dissipait plus. Dans ce secteur, on avait trop recouru au torrent de feu. Et Gwen tissa une sorte de mur de flammes et le propulsa sur ses adversaires. Sur le passage de son attaque, des Aïades s'embrasèrent, rapidement réduits à des petits tas de restes fumants. Alors que le sol devenait noir, les Aïades se regroupèrent pour repousser ce tissage. Ils réussirent, mais Gwen profita de l'occasion pour en tuer plusieurs autres. Sachant que ses sœurs se chargeaient de dévier ou de détruire les ripostes, la chair d'Amyrline mobilisa ses forces pour générer un autre mur de flammes.
« Si fatiguée, » dit une petite voix dans sa tête. « Et Gwen, tu es épuisée. Ça devient dangereux. »
Leilwyn tituba sur le sol éventré, mais elle rejoignit son Aes Sedai.
« J'ai des nouvelles, mère, »
dit-elle avec son accent traînant.
« Les Ashaman ont récupéré les sceaux, et leur chef les a sur lui. »
Et Gwen en soupira de soulagement. Changeant de tactique, elle tissa des colonnes de feu, cette fois, dont la lueur éclaira le sol dévasté autour des Aes Sedai. Les fissures provoquées par Emael avaient de quoi inquiéter. La sœur dirigeante se lança dans un nouveau tissage, puis elle s'interrompit. Quelque chose n'allait pas. Et Gwen pivota sur elle-même à l'instant où des torrents de feu, un véritable raz-de-marée cette fois, balaya la ligne de sœurs et en tuèrent une dizaine. Des explosions suivirent, comme venues de nulle part, et d'autres femmes moururent en moins d'une seconde.
Les torrents de feu ont brûlé des femmes qui venaient de neutraliser des tissages adverses mortels. Mais ces malheureuses ont été éjectées de la trame avant d'avoir canalisé pour nous défendre. Donc, elles n'auront pas arrêté les attaques.
Dans la trame, les torrents de feu avaient des conséquences rétroactives. Une série d'événements catastrophiques. Les Aïades tués étaient de nouveau vivants, et ils chargeaient avec la même rage. Les hommes en rampant sur le sol en pente comme des chiens, les femmes par petits groupes de 5 ou 6. Par petits cercles, aurait-il été plus précis de dire. Et Gwen tenta de repérer la source des torrents de feu. Elle n'en avait jamais vu une telle masse, si puissante que l'effet rétroactif devait s'étaler sur des heures. Enfin, Egwene aperçut Emael, l'air crépitant autour de lui. À ses pieds, des tentacules noirs qui rappelaient de la mousse ou du lichen jaillissaient des crevasses. À croire qu'une maladie se répandait à toute vitesse, un néant qui détruirait le monde entier. Une autre salve de feu liquide blanc percuta le sol, juste devant des sœurs, rebondit et les embrasa, leur silhouette se désintégrant en un clin d'œil. L'air lui-même semblait se briser sous le déferlement de puissance de Emael. La tempête qui se déchaînait un peu avant revint à la charge, encore plus forte.
« Je croyais t'avoir appris à courir !»
fit Egwene. Elle se redressa de toute sa hauteur et se concentra. À ses pieds, le sol menaçait de s'ouvrir sur un abîme de néant. Dans ses trous, elle sentait le vide absolu. Alors qu'elle se préparait à riposter, un nouveau jet de torrent de feu balaya le champ de bataille, tuant des femmes qu'elle chérissait. Déséquilibrée par l'onde de choc, Egwene s'écroula. L'attaque des Aïades submergea les sœurs de la Tour Blanche. En criant de terreur, elles s'éparpillèrent en quête d'un endroit sûr. Les fissures s'élargirent, à croire que le sommet du plateau venait d'être percuté par un marteau géant. Les torrents de feu. Egwene devait en générer aussi. C'était la seule façon de combattre à la loyale. Redressée sur les genoux, la chair d'Amyrlin, le cœur serré, commença à générer les tissages interdits.
Non !
Entrer dans ce jeu-là accélérait la destruction du monde. Alors que faire ?
Ce n'est qu'un tissage, Egwene.
Les mots de Perrine, quand ils s'étaient rencontrés dans le monde des rêves. Sans effort, le mari de Fail avait empêché un tissage mortel de le toucher. Pourtant, ça n'avait pas été qu'un tissage. Aucune arme n'aurait pu être plus dévastatrice que celle-là. Il n'existait rien de comparable. Si fatiguée. Après une courte pause, Egwene sentait encore plus son épuisement. Au plus profond d'elle-même, le chagrin dû à la mort de Gawain se réveillait.
« Mère !»
cria Leilwyn. Elle prit Egwene par l'épaule et la secoua.
« Mère, nous devons partir. Les Aes Sedai se sont repliés et les Chariens approchent. »
En tête de la charge, un sceptre dans une main et l'autre braqué sur Egwene, Emael distingua enfin sa proie. Bien entendu, il commença aussitôt à canaliser. Que se passerait-il si ces torrents de feu tuaient Egwene? Les deux dernières heures n'auraient pas existé. Le regroupement des Aes Sedai, les dizaines d'Aïades tuées.
Ce n'est qu'un tissage.
Mais aucun autre ne lui ressemblait.
Ce n'est pas normal. Toutes les pièces ont deux côtés. Le pouvoir, lui, a deux moitiés. Le chaud et le froid. Le jour et l'obscurité. Un homme et une femme. Si un tissage existe, il doit être l'image inversée de son modèle.
Emael déchaîna ses torrents de feu et Egwene fit quelque chose. En fait, le tissage qu'elle avait essayé plus tôt contre les fissures, mais à bien plus grande échelle. Un ensemble de flux majestueux et merveilleux où se mêlaient les cinq pouvoirs. Dès que ce flot de lumière blanche se fut formé devant elle, elle cria et le propulsa à la rencontre des torrents de feu de Emael. La riposte d'Egwene percuta le centre du tissage de son adversaire. Comme de l'eau glacée et de l'eau bouillante qui se transforment en eau tiède quand on les mélange, les deux forces commencèrent par se neutraliser. Puis un incroyable éclair jaillit, aveuglant Egwene, mais elle put sentir ce qu'elle avait fait. Comme si elle venait de renforcer la trame, les fissures cessèrent de s'étendre, et quelque chose s'infiltra en elle, une sorte de force stabilisatrice. Une excroissance, semblable à la croûte qui se forme sur une plaie. Pas une réparation parfaite, mais une espèce d'emplâtre. Egwene cria et réussit à se relever. Pas question d'affronter cet homme à genoux. Puisant chaque goutte de pouvoir qu'elle était encore à même d'absorber, elle frappa le rejeté avec toute la furie d'une chair d'Amyrlin. Alors que le sol se fissurait aux pieds de Emael, celui que foulait Egwene redevint normal. Incapable de dire ce qu'elle tissait exactement, elle supposa que c'était bel et bien l'opposé des torrents de feu. Un incendie qui réparait et rebâtissait. Un feu d'artifice de lumière. La flamme de Tarvalon. Les deux immenses flux se défièrent, comme pétrifiés, pendant ce qui parut une éternité. Dans cette parenthèse éternelle, Egwene se sentit envahie par une stupéfiante paix intérieure. Le chagrin dû à la mort de Gawain se dissipa, car elle se souvint qu'il reviendrait, puisque la trame continuerait. Le tissage qu'elle maintenait, curieusement, émoussait sa colère et l'emplissait de sérénité. Alors, elle s'immergea plus profondément dans le Saïdar, ce réconfort lumineux qui la guidait depuis si longtemps. Et là, elle puisa encore plus de pouvoir de l'unique. Son tissage traversa les torrents de feu de Emael comme une lame transperce un torse. Faisant éclater l'obstacle, l'attaque d'Egwene remonta le courant de pouvoir jusqu'à la main tendue du rejeté. Transperçant sa paume, le flux s'enfonça dans son abdomen. Alors que ses torrents de feu se dissipaient, Emael tituba, les yeux écarquillés, puis il se cristallisa de l'intérieur, comme si son sang gelait. Bientôt, une superbe couche multicolore le recouvrit, un cristal brut, non taillé, comme s'il jaillissait du cœur même de la terre.
Dans un coin de son esprit, Egwene songea que la flamme de Tarvalon aurait eu un effet beaucoup moins spectaculaire sur un être qui ne se serait pas vendu aux ténèbres. Pour sa part, elle s'accrocha au pouvoir dont elle était emplie, bien plus qu'il était raisonnable. Si elle le relâchait, comprit-elle, elle serait carbonisée, incapable de canaliser ne serait-ce qu'une gouttelette. Se déversant en elle, le pouvoir la submergea. Loin au nord, quelque chose tremblait. Rand se battait encore. Sinon, un peu partout, les fissures s'élargissaient et se répandaient. Les torrents de feu de Demandred et Emael avaient fait leur œuvre, et sur le champ de bataille, le monde tombait en ruine. Des lignes noires blessaient le plateau. Sous son œil mental, Egwene les vit s'ouvrir, éventrant la terre et libérant le néant qui aspirait en lui toutes les formes de vie.
« Guette la lumière !»
murmura Egwene.
« Mère !»
Toujours agenouillée près de la chair d'Amirlin, Leilwyn regardait les centaines d'ayades qui se relevaient.
« Guette la lumière, Leilwyn !»
répéta Egwene.
« C'est la chair d'Amirlin qui parle. Trouve les sceaux de la prison du Ténébreux et brise-les. Fais-le au moment exact où la lumière brillera. C'est le seul instant où ça nous sauvera. Mais... »
Egwene ouvrit un portail, enveloppa Leilwyn de flux d'air et la força à traverser afin de la mettre en sécurité. Dans le même temps, elle annula leur lien, qui ne les aurait pas unis longtemps.
« Non !»
cria la Céane Chanienne. Le portail se referma. Alors qu'elle se préparait à affronter les Ayades, les fissures ouvrant sur le néant grandirent autour d'Egwene. Ses Aes Sedai s'étaient battus vaillamment, mais après leur éjection de la trame, leurs adversaires vaincus revenaient à la vie. Ils entourèrent la jeune dirigeante, certains hésitant et d'autres arborant un grand sourire. Les yeux fermés, la chair d'Amirlin absorba encore plus de pouvoir. Plus qu'il était raisonnable, certes, mais aussi plus qu'il était juste. Très au-delà de la prudence, et à un monde au moins de la sagesse. Mais son Saan Greal n'avait aucun mécanisme de sécurité pour empêcher ça. Son corps n'étant plus que l'être morte, elle l'offrit en sacrifice, devint une fière colonne de lumière, et propulsa la flamme de Tarvalon dans le sol, autour d'elle, et très haut dans le ciel. En une apothéose étrangement paisible, le pouvoir l'abandonna et balaya les Ayades. En même temps, il scella les fissures générées par le duel contre le rejeté. Se séparant de son corps sans vie, l'âme d'Egwene se laissa porter par le tissage géant et commença son voyage vers la lumière. Egwene était morte. Refusant presque d'y croire, Rand cria de rage et de tristesse.
« Non ! Pas elle ! Pas elle !
Les morts sont à moi !
Shaitan, pas elle !
Je les tuerai tous, adversaires !»
Rand se plia en deux et ferma les yeux.
« Je te protégerai. Quoi qu'il arrive, je ferai en sorte que tu sois en sécurité. »
Une promesse faite à Egwene, dans un passé qui semblait lointain. Et maintenant, le nom de la jeune femme s'ajoutait à la liste des morts. Une liste qui continuait à s'allonger, résonnant dans la tête de Rand comme le tonnerre. La litanie de ses échecs, si nombreux. Il aurait dû sauver tous ces gens. Le Ténébreux continua à attaquer, tentant de déchiqueter Rand et de l'écraser. Oui, les deux à la fois.
« Lumière ! Non, pas Egwene !»
Fermant les yeux, Rand parvint de justesse à repousser l'assaut suivant. Puis il perdit connaissance, livré aux ténèbres. Léane leva une main pour protéger ses yeux de la magnifique explosion de lumière. Débarrassant le versant de son obscurité, cette vague, brièvement, n'y laissa que de la clarté. Les Ayades se pétrifièrent, abandonnant leurs ombres derrière eux tandis qu'ils se cristallisaient. La colonne de pouvoir s'éleva très haut dans le ciel, un phare de lumière, puis elle se dissipa. Léane tomba à genoux, une main plaquée sur le sol pour garder son équilibre. Sur la roche fracturée, un tapis de cristal cautérisait les plaies du paysage. Partout, les fissures ainsi comblées faisaient penser à de minuscules cours d'eau. Léane se releva et avança sur le versant. En passant, elle frôla les Ayades pétrifiées éjectées du temps. Au centre exact de l'explosion, Léane découvrit une colonne de cristal aussi large qu'un antique chêne et haute de quelques 50 pieds. Au milieu, enchâssée, elle reconnut le Saan Greal de Vora.
aucun signe de la chair d'Amirlin, mais Léane avait déjà compris.
« La chair d'Amirlin est morte !»
cria une Aes Sedai, perdue au milieu des aïades cristallisées.
« La chair d'Amirlin est morte !»
Intriguée par la violence du tonnerre, Merelaine tourna la tête et se leva. La main de Galad glissant de la sienne, elle marcha jusqu'à une grande fenêtre. Dehors, rugissant comme si elle était furieuse, la mer se fracassait contre les rochers. Mais était-elle vraiment en colère ou souffrait-elle? Quoi qu'il en soit, de l'écume blanche jaillissait en direction des nuages déchirés de l'intérieur par des éclairs. Sous les yeux de Merelaine, ces nuages devinrent plus sombres au cœur de la nuit. Plus sombres. L'aube se lèverait dans une heure. Mais avec un ciel si noir, Merelaine devina qu'elle ne verrait pas le soleil. Revenant au chevet de Galad, elle s'assit et lui reprit la main. Quand une Aes Sedai viendrait-elle s'occuper de lui? Toujours inconscient, il murmurait dans ses cauchemars. Alors qu'il tournait la tête, la première dame vit quelque chose briller autour de son cou. Elle glissa une main sous la chemise du blessé et en tira un médaillon en forme de tête de renard. D'un index, elle frôla le bijou.
« Rendre à Khotan !» souffla Galad, les yeux fermés. « Espoir !»
Tandis que la noirceur, comme si c'était celle du ténébreux en personne, tombait sur le monde tel un linceul, s'insinuant par les fenêtres et les portes, Merelaine réfléchit un moment. Puis elle se leva de nouveau, abandonna Galad et sortit de la chambre, en emportant le médaillon.
« La chair d'Amirlin est morte !»
annonça Arganda.
« Par le sang et les cendres !» jura Matt. « Et Gwen ? Et Gwen aussi ?»
Un coup de poing au visage l'aurait moins sonné.
« Et ce n'est pas tout. Les Aes Sedai affirment avoir perdu plus de la moitié de leurs effectifs. Les survivantes assurent, c'est une citation, qu'elles ne pourraient pas canaliser assez de pouvoir pour soulever une feuille de laurier. Elles sont hors de combat.
« Combien de morts parmi les Aïades ?»
demanda Matt.
« Tous !»
répondit Arganda. Regardant l'officier, Matt plissa le front.
« Pardon ?»«
Tous. Les hommes comme les femmes. Tous ceux qui affrontaient les Aes Sedai. »«
Ça, c'est quelque chose. »
souffla Matt.
« Oui, mais Gwen ?»
Non, il ne fallait pas y penser maintenant. Avec ses sœurs, elle avait anéanti les Aïades. Un fantastique exploit. Les Chariens et les Trollocs se retirant du front pour se regrouper, Matt saisit l'occasion de faire la même chose. Ses forces, ou plutôt ce qu'il en restait, étaient déployées au sommet du plateau, car il avait regroupé tout son monde. Les frontaliers, les fidèles du dragon, les ogiers de Loyal, les gars de Tam, les capes blanches et les bras rouges. Il se battait bien, mais contre un ennemi nettement supérieur en nombre, il ne fallait pas espérer de miracle. Quand ils étaient face au seul Charien, ces braves avaient déjà du mal, mais l'arrivée des Trollocs les forçait à combattre sur deux fronts. Durant la dernière heure, ils avaient dû reculer de plus de 1000 pas en direction du nord. Autant dire que leurs lignes arrières avaient presque atteint le bord du gouffre. On en arrivait à la dernière mêlée. La fin du combat. Grâce à l'élimination des Aïades, la défaite prendrait plus de temps, mais il restait encore tellement de Trollocs. Cette danse, Matt l'avait bien exécutée, et il le savait. Mais tout homme avait ses limites. Et même le retour de Tuon risquait de ne pas suffire, si elle se remontrait. Arganda recevait les rapports de tous les secteurs du champ de bataille. Blessé assez grièvement pour ne plus pouvoir se battre, il n'avait trouvé personne pour le guérir. Un homme de qualité et un sacré officier. Dans la compagnie, Matt aurait eu une place pour lui. À part ceux qui étaient encore occupés à déblayer les cadavres de leur chemin, mais ce serait bientôt fait, les Trollocs se mettaient en formation sous les ordres d'Emir Draal. À première vue, ça laisserait à Matt entre 5 et 10 minutes pour se préparer. Après, on y serait. L'air sinistre, Lan approcha du jeune flambeur.
Que veux-tu que fassent mes hommes, Khotan?
Qu'ils se préparent à affronter ces Trollocs. Quelqu'un a eu des contacts avec Mayenne dernièrement? Ce serait le moment idéal pour qu'on nous renvoie des gars guéris et pleins d'ardeur.
Je vais voir ça, dit Lan. Après, je parlerai à mes hommes.
Alors que le roi du Malkier se retirait, Matt chercha dans ses sacoches de sel et en sortit l'étendard de Rand, celui avec l'antique symbole des Aes Sedai. Il l'avait récupéré plus tôt, au cas où ce truc serait utile.
« Que quelqu'un lève ses couleurs! On se bat au nom de ce fichu Rand! Montrons aux ténèbres que nous en sommes fiers !»
Danil prit l'étendard et l'attacha à une lance. Matt inspira à fond. Si on écoutait les frontaliers, cette histoire se terminerait par une charge glorieuse, héroïque et suicidaire. Comme une chanson de Tom, en quelque sorte. Le genre de ballade dont Matt s'était juré de ne jamais être le héros. Mais c'était raté, semblait-il.
Réfléchis, réfléchis.
Dans le lointain, les corps des Trollocs sonnèrent la lalie. Tuan était en retard. Viendrait-elle seulement? En secret, Matt espérait que non. Dans une bataille si mal engagée, les Sean Chania n'avaient rien à gagner. Le jeune flambeur avait férocement besoin d'une ouverture.
« Bouge-toi un peu, ma chance !»
Un nouveau portail s'ouvrit, et Arganda alla écouter le rapport du messager. Sans avoir besoin d'entendre, Matt devina de quel genre de nouvelles il s'agissait. Arganda revint l'air sinistre.
« D'accord, »
dit le jeune flambeur.
« Je t'écoute. »
« La reine d'Andorre est morte. »
« Par les maudites cendres !»« Pas Elaine !»«
Rand, je suis désolé. »
« Qui commande là-bas, ma chérie ?»«
Mort aussi, comme sa femme. Ils sont tombés en essayant de repousser une attaque contre les piquets d'Andorre. Nous avons aussi perdu 6 chefs de tribu. Au bord de la rivière, plus personne ne commande les Andoriens et les Aiel. Ils ne tiendront plus longtemps. »«
C'est la fin !»
lança soudain la voix amplifiée de Demandred, qui se tenait à l'autre extrémité du plateau.
« Loustérine vous a abandonné !» Criez son nom en mourant pour qu'il sente votre douleur.
Ils en étaient au terme de la partie, et le rejeté avait finement joué. Tournant la tête, Matt balaya ses troupes du regard, des hommes épuisés et bien souvent blessés. Inutile de le nier, les carottes étaient cuites.
On va chercher les Aes Sedai,
dit Matt à Arganda.
Je me fiche de leur histoire de feuilles de laurier. Si leur peau est en jeu, elles trouveront peut-être un reste d'énergie pour envoyer quelques boules de feu. Et leurs champions, eux, doivent être en état de se battre.
Arganda hocha la tête. Non loin de là, un portail s'ouvrit, et deux achamans en sortirent en titubant. Nehald et Naef étaient couverts d'écorchures, et l'Aes Sedai du second brillait par son absence.
« Alors ?»
demanda Matt.
« C'est fait, »
grogna Nehald.
« Et Tuon ?»«
L'espion a été démasqué, si j'ai bien compris. »
dit Naef.
L'impératrice attend ton signal pour revenir.
Matt eut mal air et prit le pouls de la bataille qu'il avait mise en scène. Même avec Tuon, il n'était pas sûr de gagner. Pas avec l'armée d'Andorre en déroute et les Aes Sedai hors d'état de canaliser. Et pas sans Egwen, avec son entêtement de fille de deux rivières et son caractère en acier trempé. Le seul espoir, c'était qu'un miracle se produise.
Va la chercher, Naef,
dit Matt. Il demanda de quoi écrire, rédigea un court message et le tendit aux achamans. Vouloir garder Tuon en sécurité était une démarche égoïste et stupide. En ce monde, il n'existait plus l'ombre d'un lieu sûr.
Donne ce mot à l'impératrice, Naef. Précise que ses instructions doivent être suivies à la lettre.
Matt se tourna vers Nehald.
Toi, rejoins Talmanès. Et dis-lui de continuer selon le plan.
Les deux achamans s'en furent délivrer leur message.
« Ce sera suffisant ?»
demanda Arganda.
« Non, »
lâcha Matt.
« Alors pourquoi continuer ?»«
Parce que je préférerais devenir un suppôt, plutôt que de baisser les bras avant d'avoir tout essayé. »«
Loustérine !»
beugla Demandred.
« Viens m'affronter ! Je sais que tu suis cette bataille ! Viens y participer !»«
Ce type commence à me taper sur les nerfs !»
grogna Matt.
« Cotonne !»
dit Arganda.
« Regarde! Les Trollocs sont en formation. Je crois qu'ils vont attaquer. »«
Dans ce cas, allons-nous préparer à les accueillir. Où est Lan? Il n'est pas revenu? Je détesterais finir cette histoire sans lui. »
Pendant qu'Arganda criait des ordres, Matt sonda les rangs à la recherche du roi du Malkier. Mais l'officier le prit par le bras et lui montra quelque chose, en direction des Trollocs. À la lueur des incendies, Matt distingua un cavalier solitaire monté sur un étalon noir. Comprenant que Lan chargeait seul le flanc droit des Trollocs, le jeune flambeur eut un frisson glacé. Galopant vers la partie est du plateau, ce héros fonçait sur Demandred. Lan était en route pour livrer sa petite guerre privée. Les Trollocs tentaient de saisir un bras d'Olver, tapis au fond de sa crevasse, avec l'idée de l'en sortir comme on tire un escargot de sa coquille. D'autres monstres creusaient des deux côtés de son refuge. Du sang coulant de ses multiples plaies, des larmes sur les joues, Le protégé de Matt ne parvenait pas à cesser de trembler. En même temps, il se révélait incapable de bouger. Un vrai poltron, tétanisé, tandis que des abominations s'échinaient à le capturer. Assis sur une souche, Loyal récupérait un peu en attendant le début de la prochaine mêlée. Une charge, oui, ce serait un point final des plus satisfaisants. Le jeune Ogier avait mal partout et il ne sentait plus ses bras. Au sujet des batailles, il avait lu beaucoup de traités, et cette guerre n'était pas son baptême du feu. En d'autres termes, il avait toujours su à quoi s'attendre. Mais entre la théorie et la pratique s'étendait un gouffre. S'il était parti de son sanctuaire, c'était pour faire de véritables expériences. Après une journée passée à se battre, on n'était plus très sûr d'avoir encore des membres attachés à son corps. S'il levait sa hache, Loyal trouvait le tranchant affreusement lourd. De quoi se demander comment le manche parvenait à ne pas se casser en deux. La guerre. Voilà une expérience dont il se serait bien passé. Comparé à ce désastre, les escarmouches désordonnées qu'il avait jadis livrées à Deux-Rivières n'étaient qu'un jeu d'enfant. Là-bas, au moins, on donnait aux soldats assez de temps pour récupérer les cadavres et soigner les blessés. Ici, il n'y avait qu'un mot d'ordre, tenir face à des vagues d'attaquants surexcités. Mais ce n'était plus le moment de temporiser, ni de réfléchir. Quand Erid vint s'asseoir au pied de sa souche, Loyal lui posa une main sur l'épaule. Fermant les yeux, elle se laissa aller contre lui. Quelle magnifique épouse il avait, avec ses oreilles parfaites et ses superbes sourcils. Craignant que ce soit en partie le sien, Loyal évita de regarder le sang qui maculait les vêtements de sa femme. Avec des doigts si raides qu'il ne les sentait presque plus, il lui massa tendrement l'épaule. Sur le champ de bataille, il avait pris quelques notes sur ce qu'il faisait ou ce qu'il voyait, histoire de garder en mémoire le déroulement tragique des combats. À présent, on en était au dernier assaut. Une très bonne conclusion pour son roman, lorsqu'il s'y mettrait enfin. Oui, il faisait encore mine de croire qu'il écrirait son livre. Un petit mensonge qui ne ferait de mal à personne. Soudain, un cavalier solitaire se détacha des rangs pour fondre sur le flanc droit des Trollocs. Matt serait furieux d'apprendre ça. Seul, un guerrier était sûr de mourir. Loyal s'étonna d'avoir le cœur serré à l'idée du sort qui attendait ce cavalier. Après avoir vu tant de morts, c'était bizarre.
« Cette silhouette m'est familière, »
pensa-t-il. Le cheval, surtout. Il l'avait déjà vu, et très souvent.
« L'âne, c'est lui qui charge tout seul. »
Loyal se leva. Alors qu'il appuyait sa hache sur son épaule, Erith le regarda, surprise.
« Attends ici et bats-toi aux côtés des autres. Je dois y aller. »«
Où ça ?»«
Assister à un grand événement. »
La fin du dernier roi du Malkier. Un passage qu'il devrait absolument inclure dans son livre.
« Prêt à charger !»
cria Arganda.
« En formation, les archers devant, les cavaliers ensuite et les fantassins derrière !»«
Une charge, » pensa Tam. « Oui, c'est notre seul espoir. »
Il devait continuer à pousser, mais le rang était si éclairci. Tam comprenait parfaitement l'idée de Matt. Hélas, elle ne fonctionnerait pas. Tant pis, il allait falloir faire comme si.
« Ce type est déjà mort !»
dit un mercenaire, non loin de là. L'homme parlait de l'âne Mandragoran, qui fonçait sur le flanc droit des monstres.
« Fichu frontalier !»« Tam !»
appela Abel dans le dos du père de Rand. Au-dessus de leur tête, le ciel s'assombrissait encore. C'était donc possible, en pleine nuit ? Les affreux nuages semblaient de plus en plus bas. Malgré les incendies qui crépitaient sur tout le plateau, Tam faillit perdre de vue le destrier noir du mari de Ninevée.
« Il chevauche vers Démandred, mais sur son chemin, il y a un mur de Trollocs. »
Tam prit une flèche à la pointe enveloppée dans un chiffon imbibé de résine et l'encocha sur son arc.
« Archer de Deux-Rivières, préparez-vous à tirer !»
Le mercenaire ricana.
« Les monstres sont à plus de 100 pas. Vous allez cribler cet idiot de flèche. »
Tam foudroya le crétin du regard, puis il embrasa son projectile à la flamme d'une torche.
« Premier rang ! À mon signal »
cria-t-il, ignorant les autres ordres qui fusaient un peu partout le long de la première ligne.
« Éclairons le chemin du seigneur Mandragoran !»
Tam arma son arc, sentit la flamme du chiffon lui roussir les doigts, et tira. L'âne chargeait les Trollocs comme un taureau furieux. Sa lance et les rechanges s'étaient brisés en deux des heures plus tôt. Au cou, il portait le médaillon que Berelein lui avait envoyé via un portail avec une simple note.
Je ne sais pas comment Galad a hérité de ce bijou, mais j'ai cru comprendre qu'il me demandait de le rendre à Cotton.
Pour l'heure, Lan ne réfléchissait pas à ce qu'il était en train de faire. Le vide n'autorisait pas la méditation. Certains auraient qualifié son acte de trop audacieux, de suicidaire ou de vaniteux. Mais pour changer le monde, si peu que ce soit, un homme devait être au moins l'un des trois. À travers le lien, il envoya tout le réconfort qu'il pouvait prodiguer à Nineveh malgré la distance. Puis il se prépara au combat. Quand il fut assez près des Trollocs, ceux-ci érigèrent une muraille de lances pour l'arrêter. Lorsqu'il tentait de passer en force, un cheval finissait immanquablement éventré. Très calme dans son cocon de vide, Lan inspira à fond, se préparant à couper le fer de la première lance, puis à défoncer la formation adverse. Une manœuvre qui n'avait aucune chance de réussir. Pour le coincer, les Trollocs auraient seulement besoin de serrer les rangs. Après, ils immobiliseraient Mandarb et feraient basculer son cavalier de sa selle. Mais il fallait que quelqu'un tue des Mandred. Sentant le médaillon contre sa peau, Lan leva son épée. Une flèche enflammée zébra l'air au-dessus de la tête de Lan, puis se ficha dans la gorge d'un monstre juste devant lui. Sans hésiter, le roi du Malkier saisit cette couverture et s'engouffra dans la brèche. Piétinant le Trolloc blessé, il entra dans le lard des autres. Il aurait eu besoin de... Une autre flèche foudroya un monstre, puis une troisième et une quatrième, en succession de plus en plus rapide. Alors qu'une pluie de flèches s'abattait sur les créatures des ténèbres, Mandarb renversa les monstres comme des quilles.
« Malkier !»
cria Lan en talonnant son destrier. Malgré les corps qu'il devait piétiner, Mandarb parvenait à maintenir sa vitesse. Autour de Lan, les projectiles continuaient à pleuvoir avec une incroyable précision. Ainsi, chaque monstre qui tentait de lui barrer le chemin se retrouvait au tapis. Lan continua à avancer. Alors qu'il envoyait les monstres agonisant au sol, la flamme des flèches lui balisait le chemin, traçant une sorte de route dans l'obscurité. Sur ses flancs, les Trollocs restaient nombreux, mais devant lui, ils tombaient comme des quilles. Bientôt, il n'y en eut plus. « Merci, Tam. » Lan poussa son destrier le long de la moitié orientale du plateau. Désormais seul, il laissait derrière lui les soldats de Shara et les créatures des ténèbres. À présent, il ne faisait plus qu'un avec le vent qui ébouriffait ses cheveux, et avec les talons musclés qui le portaient vers la seule cible qui l'intéressait. Son objectif final et son destin. Quand il entendit un bruit de sabots, le rejeté se leva, et ses gardes du corps charien se postèrent devant lui. Avec un cri de guerre, Lan fonça sur les soldats qui se dressaient sur son chemin. Quand il arriva au contact, Mandarb se cabra, pivota sur lui-même, fit basculer des monstres en arrière et prit soin de les piétiner. Lan sauta de sa selle. Les talons n'étant pas protégés contre le pouvoir, continuait à se battre sur son dos, inciterait des Mandred à le viser. Après une réception en souplesse, le roi du Malkier courut vers sa proie, épée au clair.
« Encore un ?»
rugit de Mandred.
« Lousterine, tu commences à me taper sur... »
Le rejeté s'interrompit quand Lan, arrivé à portée de lance, se lança dans un duvet de chardon qui flotte au milieu du cyclone. Une figure d'escrime offensive et spectaculaire. Des Mandred para le coup puis recula d'un pas, déséquilibré par la violence de l'impact. À une vitesse incroyable, les deux listes échangèrent trois séries de coups. Le rejeté récoltant une estafilade sur la joue à l'issue de la troisième. Lan sentit comme une brûlure et du sang jaillit devant lui. Portant une main à sa joue, des Mandred écarquilla les yeux.
« Qui es-tu ? L'homme qui va te tuer !»
Perché sur le dos d'un Torm qui courait vers le portail, Min se demanda comment la bête réagirait à la fureur des combats, dès qu'elle déboulerait sur le champ de bataille. Dans le lointain, des feux et des torches éclairaient des scènes où la détermination et le courage jouaient toujours le premier rôle. Min regarda briller ses lueurs, les dernières d'un grand feu qui serait bientôt éteint pour l'éternité. Au nord, Rand continuait à trembler. La trame tourbillonna devant Rand, le forçant à ouvrir les yeux. À travers ses larmes, il vit les héros qui combattaient pour lui, qui mouraient surtout. Il vit aussi Elaine, seule et prisonnière, alors qu'un seigneur de la terreur s'apprêtait à lui ouvrir le ventre pour lui arracher les bébés. Il vit Rouark, son esprit dévasté, devenu un pion entre les mains d'une rejetée. Il vit Matt, désespéré face à une défaite inévitable. Enfin, il vit Lan qui galopait vers sa mort.
Alors que les propos de Demandred lui faisaient l'effet d'une gifle, la pression du ténébreux augmenta encore. Randall Thor avait échoué. Fragile et presque oublié, une voix retentit au plus profond de son esprit.
« Lâche tout !»
L'âne donnait tout ce qu'il avait. Aujourd'hui, il ne se battait pas comme il avait formé Rand à le faire. Pas d'observation prudente, pas d'estimation du terrain, aucune évaluation pondérée des forces en présence. Demandred maîtrisait le pouvoir. Malgré le médaillon, l'âne ne pouvait pas lui laisser le temps de réfléchir. Sinon, il aurait à coup sûr l'idée de lui lancer de grosses pierres ou d'ouvrir un abîme sous ses pieds. Réfugié dans le vide, très profondément, le roi du Malkier se laissait guider par son instinct. Allant bien au-delà de l'absence d'émotion, il élimina tout ce qui pouvait le déconcentrer. Nul besoin d'analyser le terrain, puisqu'il ne faisait plus qu'un avec le sol et tout ce qui l'entourait. Et pourquoi tenter d'évaluer les compétences de Demandred? Un rejeté, avec des siècles d'expérience, était tout simplement le meilleur escrimeur qu'il ait jamais affronté. Dans un coin de sa tête, l'âne avait conscience que des chariens accouraient pour former un cercle autour des deux combattants. À l'évidence, très confiant en ses aptitudes, Demandred leur avait ordonné de ne pas intervenir dans ce genre de circonstances. L'âne exécuta une séquence de figures. Le sanglier qui dévale la colline devint le cyclone dans la montagne, puis le faucon qui pique sur les broussailles. Comme des affluents qui se jettent dans un fleuve pour grossir ses flots, ses attaques auraient dû le rendre trop fort pour son adversaire. Mais comme il l'avait deviné et craint, Demandred se battait redoutablement bien. Même si ces figures étaient très largement différentes de celles que connaissait l'âne, le passage des siècles n'avait pas modifié les bases d'un duel à l'épée.
« Tu es... bon !»
fit Demandred, tout en reculant face à un vent et pluie qui lui laissa une plaie sur le menton. La lame de l'âne zébra l'air, reflétant la lueur rouge d'un feu. Demandred riposta avec une variante de frapper l'étincelle. Ayant anticipé la botte, l'âne parvint à l'esquiver, au prix d'une entaille au flanc, mais il n'en était plus à sa près. Cette passe d'armes le força à reculer d'un pas. Saisissant l'occasion, Demandred fit léviter une pierre et la lui propulsa dessus. Au plus profond du vide, l'âne sentit venir le projectile. L'avantage d'avoir une compréhension instinctive du combat, une aptitude gravée en lui, très près du noyau de son âme. Le pas qu'esquissa Demandred et la direction dans laquelle il regarda indiquèrent très précisément à l'âne ce qui allait se produire. Au lieu d'exécuter la figure qu'il avait prévue, l'âne leva sa lame contre sa poitrine et recula. De la taille d'une tête d'homme, une pierre le frôla en sifflant dans l'air. Le danger passé, le roi du Malkier avança, esquivant ainsi une deuxième pierre qui passa sous son bras, déjà armée pour décrire la fameuse figure. Du coin de l'œil, il vit le troisième projectile qui le manqua de très peu. Après avoir paré l'attaque de son adversaire, Demandred eut quelque peine à reprendre son souffle.
« Qui es-tu ? »
demanda-t-il de nouveau.
« Aucun escrimeur de cet âge n'a un tel talent. Asmodean ? Non, il ne me combattrait pas de cette façon. Lusterine, c'est toi sous un déguisement, pas vrai ?»« Je ne suis qu'un homme, »
fit l'âne.
« Et c'est depuis le jour de ma naissance. »
Demandred grogna puis lança à son tour une attaque. L'âne répliqua avec les pierres qui tombent de la montagne. Malgré cette excellente parade, la rage de Demandred le força à reculer de quelques pas. Même si l'âne avait pris l'offensive au début, le rejeté était le meilleur escrimeur des deux. L'instinct qui soufflait au mari de Ninevé quand il fallait frapper, parer, avancer ou reculer ne pouvait pas se tromper à ce sujet. Dans un combat vraiment égal, il en aurait peut-être été autrement, mais ce n'était pas le cas. Après une journée à se battre, l'âne n'avait pas tous ses moyens, d'autant plus que ses plaies, les moins graves qu'il n'avait pas fait guérir, lui faisaient mal et le déconcentraient. En outre, une guérison, en soi, était déjà une expérience épuisante. Demandred, lui, était frais et dispo. Cessant de parler, il se concentra à 100% sur le duel. Bizarrement, il renonça à utiliser le pouvoir et misa tout sur sa lame. Quand l'avantage passa de son côté, il ne sourit pas. À première vue, ce n'était pas le genre d'homme qui se montrait souvent hilar. L'âne recula encore, mais Demandred exécuta un sanglier qui dévale la colline, poussant son adversaire à l'extrême limite du cercle de spectateurs. L'ayant ainsi coincé, il le martela de coups et fit mouche sur un bras, une épaule et une cuisse. J'ai juste le temps pour une dernière leçon.
Je te tiens !
Triompha Demandred, le souffle toujours court.
« Qui que tu sois, c'est terminé. Tu ne peux pas gagner. Tu ne m'as pas bien écouté,
souffla Lan. Une dernière leçon, la plus dure. Demandred frappa, et le roi du Malkier vit enfin l'ouverture qu'il attendait depuis longtemps. S'y engouffra, il laissa la lame du rejeté se plaquer contre son ventre, puis il avança, s'empalant volontairement.
Je ne suis pas venu pour gagner, mais pour te tuer. Et la mort est plus légère qu'une plume.
Les yeux écarquillés, Demandred essaya de se dégager. Trop tard, la lame de Lan lui trancha la gorge. Alors que le monde devenait noir autour de lui, le roi du Malkier recula, libérant la lame du rejeté de son fourreau de chair. Captant la douleur et l'angoisse de Nineveh en cet instant fatal, il lui envoya dans le lien tout l'amour qu'il éprouvait pour elle.